Chers auditeurs et auditrices de la radio Rao FM, et chers téléspectateurs, nous sommes dans la joie de venir auprès de vous pour partager ensemble la parole de Dieu à ce dimanche. Nous allons commencer par la prière. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es merveilleux. Et tu ne cesses de nous entourer de tes bras d'amour. Tu ne cesses de nous entourer de toutes sortes de grâces. Voilà que pendant toute une semaine, tu nous as gardés chacun et chacune. Tu as veillé sur nous. Et nous voulons te dire notre reconnaissance par rapport à tout ce que tu fais dans notre existence. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et tu veux à ce que nous puissions être capables de nous tourner vers toi pour attendre nous parler et parler à nos cœurs. Et c'est fort de cela, Seigneur, que nous voulons abandonner cette séance entre tes mains pour que tu conduises toutes choses, que tu sois avec l'auditeur ou l'auditrice à qui nous écoute à ce moment, que tu sois avec les téléspectateurs qui nous regardent devant son écran de télévision pour que nous soyons tous au bénéfice de la grâce que tu veux répandre dans nos cœurs par ta parole. Que tu sois glorifié à jamais et que ton esprit vienne nous illuminer à tout et ouvre le cœur de mon frère et de ma sœur qui m'écoute à ce moment d'être attentif à cette grâce que tu veux répandre dans son cœur. Que tu sois glorifié à jamais et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te le prions. Amen. Avant que je n'entre dans le vif de notre thème, j'aimerais d'abord vous poser une question ou trois questions, chers auditeurs et auditrices de la radio Rao FM. La première question est la suivante. Quelle est votre vision de votre avenir éternel? La deuxième question est formulée de la manière suivante. Quelle est votre vision pour votre quotidien? Et la troisième question, et la dernière, elle est la suivante. Est-ce que la vision de votre avenir vous donne une perspective pour votre vie quotidienne? Et à ce moment, je vais vous inviter à prendre en considération le passage qui est le passage de ce dimanche et que je voudrais partager avec vous. Et nous allons lire la portion de l'Écriture qui est tirée de l'Épître de Pierre ou la première Épître de Pierre au chapitre 1er à partir du 3e verset et la lecture nous allons la conduire jusqu'au verset 9 et on peut aller jusqu'au verset 12. Et cette lecture va nous permettre à ce que nous puissions répondre à ces trois questions que je viens de vous poser. Nous allons lire au nom de Jésus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage à qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance des dieux, par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que notre foi, éprouvée bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, et sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances, se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'il était ministre de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Parole du Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Pierre veut nous amener vers les perspectives de Dieu, les perspectives qui font voir au-delà de nos souffrances, au-delà des obstacles auxquels nous faisons face dans notre quotidien, l'espérance joyeuse du salut par la foi en Jésus-Christ. En Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, Paul écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais il s'agit d'un don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne d'entre vous ne puisse se glorifier. » En parlant du salut de l'homme, Paul n'y va pas par quatre chemins. Notre salut est une grâce. Nous devons comprendre ça de cette manière. Nous y accédons au moyen de la foi. Et en parlant de la foi, beaucoup de questions surgissent. Et beaucoup de gens se posent beaucoup de questions autour de la foi, ne fût-ce que d'abord pour la définir. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que la foi? Et on va même jusqu'à se poser une autre question. Comment me rendre compte que je vis dans la vraie foi? Comment est-ce que je peux attaquer humain, me rendre compte que je vis dans la vraie foi? Mes chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, nous devons être en même de comprendre une réalité. Que la foi, c'est placer sa confiance dans ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, non dans ce que l'homme est capable de faire pour plaire à Dieu, même si cela peut sembler par moments un peu important. Vous comprendrez maintenant comment les hommes transforment la foi comme si c'était une équation à plusieurs inconnues, alors que ce n'est pas ça. Aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas et ne s'appropriera pas ces paroles d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, pour découvrir ce que Dieu a fait à Jésus-Christ à sa faveur, il cherchera Dieu dans les tâtonnements qui peuvent l'entraîner dans la perdition et par voie des conséquences pourra l'entraîner devant le jugement éternel. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu réclame de toi, en tant que personne qui a été créée à l'image de Dieu, ce que Dieu réclame de toi, c'est d'avoir la foi, et la foi qui sauve. Pas la foi dans n'importe quoi, mais la foi dans l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ. Et la Bible déclare que Christ était sans péché, mais Dieu l'a rendu péché pour porter à tous nos péchés. Et Jésus a été obéissant à Dieu son Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort pour que il puisse accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu dans ce monde, pour sauver l'humanité. Il a porté tes péchés, chers auditeurs et chères auditrices. Il a porté mes péchés à la croix pour que j'aie la rédemption, pour que j'aie le salut gratuitement donné par Dieu lui-même, et cela par la foi. C'est ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Dieu a été capable de le faire pour que nous puissions sortir de la vaine manière de vivre. Nous devons prendre conscience de cette réalité, mes bien-aimés. Ce que nous ne pouvions pas faire, mais Christ l'a fait à notre place. Voilà ce qu'on appelle la foi qui sauve. Et donc, par son sacrifice, Jésus-Christ a restauré la relation avec Dieu. Jésus-Christ a permis à ce que ta relation avec Dieu soit restaurée et que Dieu soit ton Père et soit capable de t'écouter, de t'attendre, parce que vous savez bien que le péché a créé une inimitié entre Dieu et l'homme. Et Christ est ressuscité d'entre les morts pour ta justification. Et lorsque nous nous donnons à Christ, mes bien-aimés, nous laissons de côté nos propres ambitions qui sont comme une folie aux yeux de notre Seigneur pour rejoindre la vie que Jésus-Christ veut pour nous, la nouvelle vie. Et dans le passage que nous avons lu, dans la première épître de Pierre, cette nouvelle vie est présentée comme une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance donne une nouvelle perspective à notre vie quotidiennement en vue d'accéder à un avenir qui soit glorieux. Cette nouvelle perspective est appelée, à partir du passage que nous avons lu, une espérance vivante. Elle est appelée vivante parce qu'elle puise toute sa source dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Lui qui est devenu la pierre vivante, l'eau vivante ou l'eau de vie, le pain vivant ou le pain de vie, le chemin vivant ou le chemin de la vie. Et la foi qui sauve, je ne le dirai jamais assez, la foi qui sauve nous donne une espérance vivante. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez à ce moment, dans ce monde, on doit se dire que rien ne peut rester pérenne. Tout ce qui nous entoure est appelé à disparaître. Même les immeubles qui nous impressionnent dans des villes, même des situations qui à vue humaine semblent nous déconcerter, ou des situations qui nous agitent comme des branches d'arbres au passage du vent. Mais reconnaissons, mes bien-aimés, que nous aspirons à plus, que nous aspirons à bien plus, parce que Dieu nous engage à changer de perspective. Il nous dit de lever les yeux pour que nous soyons à mesure de contempler avec les yeux de la foi ce qu'il veut nous donner. Dieu veut nous donner quelque chose de bien meilleur que ce que nous avons. Dieu veut nous donner quelque chose que nos mots ne peuvent pas décrire. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'héritage que personne ne peut donner, même les parents. Vous êtes témoin avec moi combien que les enfants se disputent l'héritage leur légué par les parents. Mais ici, ce n'est pas le cas. L'héritage que Dieu veut nous donner, c'est un héritage éternel. Dieu nous rassure qu'il conserve un héritage pour nous. Un héritage, comme nous dit le texte, qui ne peut ni se corrompre. Un héritage qui ne peut ni se souiller, ni se flétrir. Cet héritage, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, cette vie que nous partageons et nous partagerons avec celui qui nous a tant aimés au point de donner sa vie pour nous, qui nous a sauvés de la vaine manière de vivre, et qui nous permet de vivre une vie qui va au-delà de la tombe. Parce que dans l'imaginaire collectif, on croit que la vie se termine quand il y a quelqu'un qui meurt et qu'on doit déposer son corps dans une tombe. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à garder le cap de la foi dans ses promesses et nous laisser conduire par la foi dans ce qu'il nous dit, qu'il nous maintient avec puissance par la foi. Ici, je vous invite à réaliser combien le Seigneur est bon. Il pourvoit à notre foi. Et une fois, nous lui faisons confiance, il va jusqu'à pourvoir à notre foi. Parce que la parole de Dieu nous dit, il nous garde dans sa puissance par la foi. Quoi de plus fantastique, mes bien-aimés, que de reconnaître qu'on est maintenu dans la puissance de Dieu par la foi. Chers auditeurs, chers auditrices, et vous qui me regardez à ce moment, j'aimerais que chacun et nous tous, chacun et chacune et nous tous, nous prenions conscience de ce que Dieu veut nous apporter. Et ce que Dieu veut nous apporter, c'est le résultat de la foi qui sauve. De la foi qui est placée dans ce que Dieu est capable de réaliser dans notre vie par Jésus-Christ et que nous devons vivre par la foi. La deuxième des choses que je voudrais partager avec vous, c'est que Dieu réclame de vous, c'est la foi qui réjouit. La foi qui nous fait sauter de joie. La foi qui nous fait déborder de joie, on peut le dire ainsi. Et la joie dont nous parle la parole de Dieu n'est pas du tout naturelle. Parce que vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas toujours facile de vivre dans la joie. À ce sens que nous sommes environnés par beaucoup de circonstances. Nous sommes environnés par des situations et des contextes à qui ont tendance à nous arracher la joie. Bref, il y a des situations réellement qui nous agacent et arrivent à nous arracher la joie. Et je vais citer quelques-unes de ces situations. C'est le cas de deuil. Vous savez combien le deuil nous arrache la joie à de continuer à vivre. C'est le cas de maladies chroniques, de maladies métaboliques. Ah, si tu peux réaliser combien que ça devient casse-tête dans la vie de certaines personnes qui en souffrent, et ça fait disparaître la joie. Et je peux aussi penser aux difficultés conjugales, et par lesquelles passent beaucoup de foyers, et des foyers qui sont à désunion totale, assurent beaucoup d'aspects de la vie conjugale. Je peux aussi penser à la relation tendue entre les parents et leurs enfants. Et toutes ces situations nous empêchent de profiter de la joie. Je peux aussi penser au Covid-19 avec sa cohorte de malheurs, avec tout ce qu'il y a comme propagande autour de cette pandémie. Je peux aussi penser à d'autres situations peut-être à qui nous agitent à certains égards et qui nous arrachent la joie de vivre. Retenez, mes bien-aimés, que quand Pierre écrivait sa lettre aux chrétiens qui étaient dispersés dans le monde entier, ne croyons pas que les chrétiens, à question, passaient par des moments de joie. Le chrétien, à question, vivait des souffrances physiques et morales. Et ces souffrances étaient très intenses. Il vivait toutes ces souffrances-là au quotidien. Et pourquoi ? À cause du témoignage de leur foi en Jésus-Christ. Ils étaient persécutés pour avoir confessé le nom de Jésus-Christ, que c'est le seul nom qui nous a été donné et par lequel nous accédons au salut de Dieu. C'est à ceux-ci à que Pierre demande à ce qu'ils tressaillent d'allégresse. Pierre savait une chose, mes bien-aimés. Quand on donne sa vie au Seigneur, et cette foi de se confier au Seigneur fait éclater une joie au milieu des épreuves. Alléluia. La foi qui sauve produit la joie, et la joie qui se réjouit au milieu même des afflictions. Notre Dieu, celui en qui nous avons cru et en qui nous croyons, il est souverain. Nous devons le reconnaître. Il est souverain dans sa façon d'être et dans sa manière d'agir. Nous le confessons comme le Dieu de toute puissance, autrement dit, le Dieu tout puissant. Mais c'est Dieu tout puissant, c'est Dieu de toute puissance, c'est Dieu qui est souverain, peut permettre des épreuves. Non pas qu'elle soit l'occasion de chute et de révolte contre lui, mais que ces épreuves soient une occasion qu'il nous offre comme une opportunité où nous expérimentons d'autres perspectives quand nous en dirons à ces épreuves-là. Il nous rassure que dans l'épaisseur de la souffrance, que dans l'épaisseur de la tristesse, de la détresse, il nous rassure qu'il est là parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Car la souffrance par laquelle nous pouvons passer, c'est une souffrance d'un peu de temps. La parole de Dieu nous dit une souffrance qui est dans les temps donnés. Ce n'est pas une souffrance éternelle. Mais c'est une souffrance qui est cadrée dans les temps de Dieu. Dieu nous rassure à que la foi à qu'il a placé à nous est quelque chose de précieux. Et que, au travers des épreuves, Dieu veut purifier notre foi. Peut-être parce que nous avons placé trop de confiance en nous-mêmes. Peut-être parce que nous avons eu des fausses considérations vis-à-vis de notre Seigneur. Peut-être parce que nous avons été incrédules par moments, nous n'avons pas exprimé notre appartenance à notre Dieu. Certes, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas vu Jésus. Comme c'est lui qui nous écrit cette épître, comme l'apôtre Pierre, lui qui a marché avec Jésus, lui qui a été aux côtés de Jésus. Mais ce que nous devons reconnaître, mes bien-aimés, c'est que nous connaissons Jésus personnellement. Mais c'est parce que nous avons fait une expérience personnelle, une expérience de la rencontre personnelle, et c'est pour cela que je parle de ce que nous les connaissons personnellement. Il est avec nous, il chemine avec nous. Et la joie à que nous apporte Jésus est glorieuse. Elle nous permet de transcender les obstacles qui se dressent sur notre chemin de la foi, dans la mesure où le but final, même si nous passons par des épreuves difficiles à gérer, mais le but final de tout ça, c'est le salut que le Seigneur veut nous apporter. Et alors, si tel est le cas, alors mon frère, alors ma sœur, et toi qui m'écoutes en ce moment, et toi qui me regardes à ce moment, tu n'as plus à regarder aux obstacles qui se dressent dans ta vie, mais tu gagnes plus à regarder à Dieu qui t'appelle et qui t'aime. Il veut te donner des opportunités à travers ce que tu es en train de connaître comme épreuve. Il a beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'il a préparées pour toi. Il veut te donner ton héritage. Il veut te donner ton héritage, mon bien-aimé. Il veut te donner cet héritage, ma bien-aimée, qui est l'assurance de ton salut. Et si tu n'es pas encore engagé pour Dieu, c'est le moment ou jamais de prendre la décision, même si c'est un combat à qui se passe dans ton cœur. Et tu peux te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur t'invite juste à accepter de donner tout ce que tu es. Là, je ne dis pas tout ce que tu as. Je dis tout ce que tu es. Tu acceptes de les donner à Dieu pour avoir ou bien pour bénéficier de cette espérance qui est vivante et par laquelle il t'a appelé et pour laquelle il t'a établi. Et quand tu l'acceptes dans ta vie, Tu seras régénéré de l'intérieur et pour une espérance vivante. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, telle est la perspective de Dieu pour ta vie que tu voudras prendre par la foi. Et telle est la perspective à laquelle le Seigneur t'appelle, que tu la saisisses par la foi et tu verras combien que le Seigneur est fidèle et il va t'accompagner le long de ton existence. Que son nom soit glorifié. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu connais mon frère et ma sœur qui a suivi ce message. Tu sais le degré qu'il a de t'appartenir. Et tu connais ses doutes, ses craintes, et tu connais, Seigneur, ses tâtonnements. Et je te demande, s'il te plaît, au travers de ton esprit, comme tu viens de parler à nos cœurs, que tu donnes à chacun la capacité et l'opportunité de pouvoir se réengager pour toi, afin qu'il voit combien tu es capable d'orienter sa vie dans de nouvelles perspectives. Que tu sois glorifié, Seigneur, parce que tu es capable d'orienter la vie de quelqu'un qui accepte de venir auprès de toi et de confesser ses péchés afin d'être pardonné. Merci, Seigneur, parce que ton esprit est à l'œuvre pour continuer à faire son travail de grâce dans le cœur des uns et des autres qui ont suivi ce message. Oui, Seigneur, nous nous confions à toi parce que tu es capable de faire des choses là où nous ne sommes pas par ton esprit. Que tu sois glorifié, Seigneur, pour cette grâce abondante que tu veux donner à mon frère et à ma sœur, et de continuer ce travail de grâce que tu as commencé dans son cœur. Nous recommandons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.